Bonjour Marc de Basquia.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Donc, Marc de Basquia, je suis ingénieur de formation. Et donc, je travaille comme ingénieur dans différentes sociétés. Actuellement, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur informatique, en charge du marketing d'un éditeur logiciel. Et là, plus récemment, depuis 10 ans, je travaille dans le secteur de l'énergie. Je suis en charge de grands projets de transformation pour un grand groupe, de manière à optimiser le fonctionnement de ce grand groupe sur différents aspects, et plutôt sur les projets transverses de transformation. Et à part cela, j'ai également une deuxième vie, parce que je suis un citoyen qui a deux vies, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que je travaille également à analyser et à proposer des transformations du système socio-fiscal français. Et à ce titre, j'ai travaillé personnellement pendant quelques années, par des lectures, par des études et tout ça. Bon. Et puis, j'ai fini par me rapprocher de différents acteurs de ce sujet-là, qui m'ont proposé de faire une thèse sur mes travaux, une thèse de doctorat en économie. Donc, depuis quelques années, je suis devenu docteur en économie et spécialisé sur une question qui est le revenu de base inconditionnel. Comment pouvons-nous le mettre en place en France ?
D'accord, merci. Donc on va revenir sur le revenu de base dans la deuxième partie de l'émission. Donc dans la première partie, les questions habituelles que je pose à mes invités. Alors quel est votre principal objectif politique ?
Alors pour moi, ce qui motive mon engagement du point de vue économique, c'est le sentiment très fort qu'il faudrait que notre pays arrive à mettre en place des mécanismes universels. Nous voyons bien que la tendance naturelle, c'est de créer des nouveaux mécanismes qui répondent à telle ou telle difficulté, qui prélèvent plus ou moins d'argent par des mesures fiscales diverses et variées. Et donc tout ceci est de plus en plus émietté et les citoyens comprennent de moins en moins comment tout cela fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui me choque beaucoup, en tant que citoyen d'abord. Et donc pour moi, un élément principal, c'est d'avoir des solutions qui soient vraiment universelles. Et une solution universelle, par définition, c'est quelque chose qui, si c'est bien fait, génère moins d'iniquité, moins de complexité, moins de méfiance entre les personnes, parce que du coup, tout le monde connaît les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. Voilà. Et deuxième aspect, c'est que, et là, c'est mon deuxième objectif, c'est que dans un pays riche comme la France, il est aberrant qu'il y ait encore des personnes qui soient en difficulté financière. Et donc là, pour moi, il est temps de réfléchir à des solutions radicales pour vraiment éliminer la pauvreté absolue dans notre pays. Ce n'est plus supportable.
D'accord. Mais est-ce que ça peut être universel et cantonné au niveau national ?
Alors, le mot universel, évidemment, certains comprennent par le mot universel, ils voient la planète, la petite planète bleue. Ouais. Bon, c'est bien joli. Non, là, quand je parle d'universel, c'est de dire que sur un territoire, sur une communauté politique, qui a une certaine cohérence, sur cette communauté politique, il est pertinent de mettre en place des mesures qui soient adaptées à l'ensemble de la population de cette communauté.
D'accord. Alors, à l'aune des intérêts de quel groupe est-ce que vous jugez une mesure politique ou économique ?
Alors, une réponse qu'on pourrait faire facilement, c'est de dire il faut que le droit du plus faible soit préservé. Bon, c'est une très bonne réponse de principe, ça, j'ai pas de débat avec ça. Je pense que si nous voulons mettre en place des mesures qui soient vraiment efficaces sur la durée, sur le long terme, il faut réfléchir à une solution qui puisse intéresser l'ensemble de la population. Et donc, il faut quelque part éviter de réfléchir à des solutions qui avantageraient tel groupe plutôt que tel autre. Donc essayons de raisonner à quelque chose qui soit équilibré pour l'ensemble des catégories de la population.
Mais on est nécessairement obligé d'avantager un groupe et de désavantager un autre dans une mesure économique.
Voilà, donc ça, on peut prendre les principes de Rawls ou autres pour ajuster. Mais je pense qu'il faut que le principe de départ, c'est qu'on ne fasse pas de distinction entre les personnes et donc qu'on essaye d'être à peu près égal sur la population. Et ensuite, quand il y a des distorsions, quand il y a effectivement des risques, que la chose ne soit pas totalement équilibrée, ce qui est normal dans tout changement. Mais là, il faut faire attention à effectivement essayer de ne pas désavantager ceux qui sont déjà désavantagés. Et plutôt, s'il faut un effort quelque part, faisons-le porter plutôt sur ceux qui sont déjà plutôt bien pourvus plutôt que sur les autres.
D'accord. Quels sont les principaux principes politiques auxquels vous croyez ?
Alors, Je vais partir de très très haut. Hein. Je pense que dans les principes de base qui nous guident, qui doivent nous guider, il y a bien entendu un principe de liberté. C'est quelque chose auquel je suis très attaché, c'est de dire que chaque individu dans une nation moderne et démocratique doit considérer que voilà, il a le droit de faire des choses et qu'il n'est pas contraint en permanence sur un tas de sujets. Donc ça, la liberté, c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement important. Quand je dis liberté, je ne dis pas libéralisme, néolibéralisme, ultralibéralisme, c'est tout ça. Non, c'est vraiment de dire que chacun doit trouver les opportunités de réaliser ses aspirations. Et ça, je constate que la complexité de notre système socio-fiscal fait que les personnes sont contraintes de partout. Donc du coup, ne réclament plus le RSA, ne font plus ci, ne font pas ça, parce qu'ils sont tellement englués dans cette complexité qu'ils ne trouvent plus les moyens d'exercer la liberté. Donc ça, je pense que c'est un guide que nous devons garder. Alors ensuite, bon, j'ai parlé donc de l'universalité, égalité, c'est-à-dire que là, les mesures doivent être à peu près homogènes dans la population. Si je prends le troisième mot-clé de notre République, la fraternité, oui, c'est quelque chose qui me parle également. Je pense qu'effectivement, nous devons tous avoir le souci du plus faible, des personnes qui sont dans des difficultés particulières, des personnes qui n'ont pas de logement, des personnes qui sont en dépendance, qui souffrent d'un handicap, ce genre de choses. Donc là, effectivement, je pense que la fraternité est un bien important. Et que chacun doit être sensible à prendre en compte les difficultés, les détresses particulières. Mais dans tout ça, je pense qu'une vertu cardinale est effectivement la démocratie, donc la transparence démocratique, qui fait que tout ce qu'on met en place sera compréhensible, compris, et donc appliqué de manière efficace. De manière un peu brutale, je dirais que la complexité que nous connaissons est quelque chose qui, pour moi, est une insulte qui est faite à chaque citoyen. Hein, de dire que monsieur, vous devez vivre avec telle ou telle contrainte, telle ou telle démarche, telle ou telle. Non, ça ne me paraît pas tout à fait respectable des personnes. Et donc la transparence est un aspect pour moi important.
D'accord. Quelles mesures politiques défendez-vous?
Alors, le cœur de mon engagement, c'est l'instauration d'un revenu d'existence inconditionnel, qui est pour moi donc le socle universel des revenus de la population.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres mesures? Parce que ça, on va y revenir
Voilà, on
en
va revenir,
détail.
voilà, ça on verra dans le détail. Il y a un deuxième aspect qui me parle beaucoup, qui est le constat que Piketty met en lumière ces derniers temps, c'est la dispersion très forte des patrimoines. Et on voit bien que le système économique, tel qu'il fonctionne, a tendance à renforcer en permanence cette dispersion des patrimoines. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement dangereux à terme. Effectivement, on peut dire une bonne guerre pour mettre tout ça d'aplomb, bon, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc plutôt qu'une bonne guerre, je pense qu'il faut mettre en place des outils de redistribution efficaces, qui soient acceptés par la population. Et donc là, je pense qu'il faut être un peu créatif par rapport à ça. Une mesure que j'aime bien, bon, on peut en parler un petit peu aussi, c'est ce qu'on appelle la taxe sur l'actif net, qui est un prélèvement qui est fait auprès de toute la population sur les patrimoines. C'est-à-dire qu'on ne fait pas uniquement un prélèvement sur l'immobilier avec la taxe foncière ou les hauts patrimoines avec l'ISF, mais voilà, on met quelque chose en place de plus uniforme, plus égal,
Progressif.
avec une progressivité qu'il faut juger, mais enfin, pas forcément très progressif, mais quelque chose qui vraiment a un effet redistributif fort. Il faut bien mesurer que la distribution des patrimoines est beaucoup plus inégalitaire que la distribution des revenus. Donc, à mon sens, il serait peut-être intéressant de moins s'exciter sur la progressivité de l'imposition du revenu, mais plus de travailler sur l'imposition des patrimoines. Ça me paraît beaucoup plus intéressant pour établir une égalité dans ce pays.
D'accord. Êtes-vous favorable à la garantie des conditions nécessaires au bien-être pour tous les humains?
Absolument, c'est-à-dire que. Il me paraît effectivement nécessaire que chacun puisse avoir donc de quoi vivre de manière décente. Ça me paraît, c'est la base de mon engagement, si vous voulez. Par contre, les moyens de l'obtenir, c'est là que j'invoque la liberté. Pour moi, ce n'est pas forcément une bourse alimentaire ou des solutions en nature qui seraient plaquées et diffusées à toute la population. Moi, je crois beaucoup à la liberté et donc je pense que si on fait une distribution monétaire auprès de la population, bah, chacun pourra prendre les moyens efficaces pour bah, se nourrir, éduquer ses enfants, se soigner, ainsi de suite. Voilà, donc oui, que la population, que toute la population soit prise en charge pour assurer ses besoins essentiels, ça me parle beaucoup, hein. Je pense qu'il faut vraiment que l'État s'assure que le bas de la pyramide de Maslow soit totalement, totalement géré. Ensuite, que ça se fasse de manière interventionniste sur les moyens, là je suis un peu plus réservé.
Alors dans ce cas-là, est-ce que vous êtes pour le fait qu'on donne à tous les humains un revenu de base, éventuellement par création monétaire?
Alors qu'on donne un revenu de base à tous les humains, ça me paraît une évidence, parce que l'évolution de la société fait que de plus en plus, le travail qui est fait par chacun n'est pas un travail qui se fait dans le cadre d'un emploi salarié. Donc là, on a une déconnexion de plus en plus forte du travail par rapport à la notion de salarié. Et donc, dans ce cadre-là, bien entendu, il faut penser autrement la distribution du revenu qui est nécessaire pour vivre. Et donc, dans ce cadre-là, oui, effectivement, je pense qu'une solution indispensable, c'est effectivement de distribuer un revenu monétaire à l'ensemble de la population. Ensuite, la question de la création monétaire, c'est est-ce que la création monétaire actuelle est optimale, bien organisée, bon. À l'évidence, non, parce qu'on voit bien les désordres, on voit bien la planète finance qui fait des choses extrêmement, absolument créatives pour inventer de la monnaie et l'utiliser à des fins de se créer toujours plus de richesses dans les mains toujours les mêmes. Donc là, il y a un déséquilibre évident sur la monnaie. Est-ce que la solution est simple à cela? Je ne crois pas. Certains proposent qu'on mette en place une création monétaire qui soit donnée directement aux personnes, hein, aux citoyens. Je suis encore réservé par rapport à ça. Je n'exclus pas tout à fait ça. Je n'ai pas encore vu de démonstration que ça marcherait.
Donc vous préférez, parce que en fait moi personnellement je ne vois pas d'énorme différence entre une création monétaire qui financerait un revenu de base ou une politique fiscale qui financerait un revenu de base. Vous serez plutôt favorable à une politique fiscale.
Alors la différence entre les deux, c'est la masse monétaire. Dans un cas, on crée la monnaie, donc on fait grossir la masse monétaire. Dans notre cas, fiscalité, on prend la masse monétaire, on prélève sur la masse monétaire existante pour redistribuer. Oui. C'est ça la grosse différence. La création monétaire, est-ce qu'on peut faire une création monétaire massive pour distribuer un revenu de base? Comme voir les choses. Imaginons qu'on distribue un revenu de base, mettons 500 euros par mois à toute la population française. Si je prends que les adultes pour simplifier le raisonnement, bon, c'est quelques 300 milliards d'euros qu'il faudrait inventer. Donc, injecter 300 milliards d'euros dans l'économie tous les ans, c'est quelque chose qui est tout de même, qui est très massif et qui a forcément un impact macroéconomique.
Ça a un impact inflationniste.
Ça a un impact inflationniste, absolument. Et donc ça, c'est quelque chose qui désorganise l'économie. Donc,
c'est-à-dire que, moi j'envisageais, alors j'ai pas été précis dans ma question, mais d'avoir un revenu de base issu de la fiscalité dans les pays riches et un revenu de base issu de la création monétaire par le don pour les pays pauvres, sachant que ce serait des banques centrales type BCE, Fed ou Banque de Chine, enfin les banques centrales vraiment crédibles et puissantes, qui créeraient cette masse monétaire. Et dans ce cas-là, ça augmenterait la masse monétaire mondiale de peut-être 5%. Donc une inflation, si on fait le calcul avec les mains très rapidement, de 5%, ce qui paraît raisonnable.
Alors, Yolande Bresson, qui était le président de l'Association pour l'instauration du revenu d'existence, de l'ER, pendant de nombreuses années, avait expliqué que le revenu de base, revenu d'existence, c'est quelque chose qui est forcément corrélé dans son montant, qui est corrélé au niveau de l'activité économique du pays. Et donc, il avait expliqué que dans un pays comme la France, la masse du revenu d'existence, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 15% du PIB. Donc, si on garde ce 15% dans tous les pays, mettons, ça donne à peu près la masse qu'il faudrait mobiliser. Si on imaginait qu'une entité extérieure à un pays apportait ces 15% dans le pays systématiquement, pareil, ça aura un effet fort d'un point de vue macroéconomique sur le pays. Et donc, ça risque d'arriver en concurrence par rapport peut-être à une organisation efficace de l'économie de ce pays-là. Donc, c'est quelque chose à regarder avec prudence. Je ne rejette pas absolument, mais je dis attention, ce n'est pas quelque chose qui est neutre d'un point de vue macroéconomique.
En fait, moi, la raison pour laquelle je serais personnellement plus favorable à une création monétaire par le don qu'une politique fiscale, c'est parce que moi, je vois pas de grosses différences. Enfin, j'ai pas étudié la question en détail, mais a priori, je vois pas de grosses différences entre les deux. Mais je pense que ça serait mieux accepté par les populations des pays riches que leur banque centrale crée de la monnaie et la donne aux pays pauvres, plutôt qu'on augmente leurs impôts pour financer le revenu de base dans les pays pauvres.
Bah, je pense déjà, enfin, en tout cas, sur le chemin de Violent Bresson, c'est que chaque pays, enfin, chaque communauté politique, hein, la communauté politique, on peut préciser ce que c'est, mais chaque communauté politique s'arrange pour organiser son économie, pour générer en son sein les ressources finançant le revenu d'existence distribué dans son pays. Donc il est rarement envisagé qu'un pays aille financer le revenu d'existence d'un autre pays. Ça, c'est un schéma qui est quelque part un peu différent du schéma habituellement envisagé.
Et pourtant, est-ce que tous les pays sont en mesure de financer ce revenu de base?
Alors là, pour répondre à ça, c'est un point qui est important. Nous avons connu depuis quelques années une expérience qui était montée en Namibie, dans un petit village. Et dans ce village, il y a à peu près 1 millier de personnes qui reçoivent tous les mois un revenu de base qui est de niveau de 10 euros par mois. Ce
Donc, qui
montant
n'est pas assez pour vivre.
nous paraît totalement dérisoire, mais ce montant a révolutionné le fonctionnement de ce village.
Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 200 euros par mois en France?
Ce qui vaut peut-être l'ordre de 100 euros, peut-être 100, 200 euros, voilà. Donc c'est un montant qui nous paraît dérisoire. Mais néanmoins, c'est un montant qui est cohérent par rapport à l'économie locale. Et qui, on l'a constaté, hein, ça a tourné depuis 4-5 ans, on le constate, c'est que on voit des personnes qui prennent des initiatives, qui se créent une activité, qui mettent leurs enfants à l'école, qui se débrouillent pour mieux se loger. Bon, donc ça crée beaucoup, beaucoup d'initiatives. Et donc, quelque part, on se dit que le revenu d'existence doit vraiment être corrélé à l'activité du pays. Et donc, un apport massif d'argent qui viendrait de l'extérieur risque de plus perturber qu'autre chose. Et ça, on le connaît très bien. On sait très bien que l'aide apportée dans les pays en développement, pendant longtemps, a été une aide qui avait aussi des mauvais côtés. C'est-à-dire que ça perturbait, et ça empêchait la création d'activités et d'initiatives locales. Donc là-dessus, il faut être un petit peu prudent.
Peut-être parce qu'elle n'a pas le même format que le revenu de base, justement.
C'est vrai, c'est vrai. C'est moins. Le revenu de base qui donne plus de liberté, quelque part, est
Alors que l'aide au
meilleur. Je suis
développement,
d'accord.
ça a surtout financé la corruption.
C'est ce qu'on a beaucoup vu, bien sûr. Oui. C'est vrai.
Parce que est-ce qu'un pays comme la Namibie a les moyens d'une politique fiscale, déjà en termes de richesse, mais en plus en termes d'infrastructures pour prélever
Bah,
l'impôt?
nous savons que dans les pays qu'on appelle en développement, il y a une très grande inégalité des revenus et des richesses. Hein. Et souvent, une minorité capte l'essentiel des ressources du pays. Et ça, c'est un schéma quand même très très courant. Et donc, je pense par rapport à la deuxième partie de votre question, effectivement, est-ce qu'il y a les capacités techniques, je dirais culturelles, on peut dire, hein, d'organiser une redistribution locale? Peut-être pas tout de suite. Mais ça, l'idée, c'est qu'une fois qu'un, deux, trois, quatre, cinq pays auront mis en place un revenu de base pour leur population, le schéma étant connu, étant reconnu autour, bah, il y aura quelque part une répercussion et un déploiement dans d'autres pays qui se fera naturellement. Vous savez que la TVA a été créée en France par les Français, et la TVA aujourd'hui est un impôt qui est utilisé dans énormément de pays dans le monde entier. Voilà, donc le revenu de base est un nouveau concept, quelque part, même si on en parle depuis très longtemps. Et nous sommes vraiment en attente de voir un premier pays, le mettre en place, le déployer. Et à partir de ce moment-là, une fois que la preuve sera faite, il est quasiment certain que tous les autres pays s'en suivront.
Et du coup, est-ce que vous êtes pour une fiscalité mondiale?
Alors, une fiscalité mondiale, pareil, pourquoi est-ce qu'un Allemand irait payer des impôts pour financer des services dans un pays avec lequel il n'y a aucun lien.
Bah, en même temps, on pourrait dire qu'un riche allemand, il a aucun lien avec un pauvre allemand, donc
Ah, c'est pas vrai.
et
Le
pour...
pauvre allemand et le riche allemand, ils ont des chances de se croiser dans la rue.
bah, pas, pas... enfin pas forcément.
Pas forcément,
ils
mais
habitent, souvent ils se croisent jamais, ils habitent pas dans le même quartier et puis.
Oui. Personnellement, j'ai du mal à croire que l'on puisse mettre en place une fiscalité mondiale. Typiquement, regardez, nous avons créé une zone euro. Nous avons créé une zone euro. Est-ce que nous avons mis en place en même temps une fiscalité sur cette zone euro?
Non.
Non. Et ça, c'est une faiblesse énorme.
Oui.
C'est une faiblesse énorme. Donc, d'avoir une monnaie commune et avoir aucune fiscalité commune, c'est une faiblesse.
Oui.
Qui va peut-être tuer l'euro.
Justement, donc il faudrait une fiscalité européenne.
Donc, il faudrait probablement une fiscalité pertinente sur une communauté qui a choisi de faire quelque chose ensemble. Si nous avons créé la zone européenne, si nous avons créé la zone euro, c'est que nous avons le projet de faire quelque chose ensemble.
Mmh.
Et s'il n'y a pas de fiscalité liée à ça, effectivement, c'est une faiblesse.
Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le projet de faire quelque chose à l'échelle mondiale ?
À l'échelle mondiale, est-ce que nous avons choisi de créer une communauté mondiale ?
Bah, pour l'instant, non.
Ça reste à prouver. Hein.
Pour l'instant, non. Mais justement, la question, c'est est-ce que vous êtes pour ?
Ben, je pense qu'il faut que les outils soient au service et en cohérence par rapport au projet. Et là, je pense qu'il n'y a pas de projet de créer une zone de libre-échange mondiale et une monnaie mondiale. Ce projet, à ma connaissance, n'existe pas. À part quelques-uns, ils peuvent en rêver, bien sûr. On peut en rêver, bien sûr.
Oui.
Mais je ne vois pas de projet articulé
d'une
zone mondiale.
Déjà, je n'ai pas très bien compris la réponse. C'est-à-dire, est-ce que vous seriez pour un tel projet ? Et d'autre part, on peut mettre en place une fiscalité mondiale sans une monnaie mondiale. C'est ce que propose Piketty, par exemple.
Il le propose, mais je ne sens absolument aucune chance que ça aboutisse.
Ah non, mais là je parle d'un point de vue. Est-ce que vous voteriez pour ? Je ne vous demande pas.
C'est là que je suis un homme très partagé. C'est que j'ai vraiment mon activité où je m'en passe des projets de transformation à l'échelle un peu large, dans un grand groupe. Hein, et j'ai effectivement cet aspect économique. Donc moi, les projets qui m'intéressent sont les projets qui se déploient. Donc, les idées qui ne se déploient pas, bon, je m'y intéresse deux secondes, mais je n'y travaille pas.
Mmh.
Voilà. Donc, je ne suis pas contre, mais je n'y travaille pas parce que ce ne sont pas les projets que je peux porter.
D'accord.
Alors, moi, je m'mobilise sur les projets sur lesquels je me dis, ce projet-là peut fonctionner. Donc, je m'mobilise et je le pousse. Donc, ça ne veut pas dire que je suis contre les autres projets, hein, mais ce n'est pas mon sujet.
Alors, c'était un peu écarté de la liste des questions, pour qu'on y revienne. Est-ce que vous êtes pour un revenu maximal mondial ? Donc c'est un peu le même ordre d'idées, mais...
Donc un revenu maximal mondial, comment est-ce qu'on va expliquer à un riche américain que maintenant, il faut que son revenu soit plafonné à ce niveau-là, et que ce soit les personnes d'Afrique qui veulent lui expliquer ça, ça me paraît très compliqué.
Mais si vous deviez voter pour ou contre ?
Je ne voterai pas, je pense que je ne serai pas pertinent par rapport à ça.
Est-ce que vous êtes pour une démocratie mondiale ? Pareil, oui, non.
Alors, la démocratie mondiale, là-dessus, j'ai une réponse un peu plus fine en disant que si on regarde la démocratie, on pense tous à Athènes, hein, la Grèce antique, en se disant que la démocratie a connu à cette période-là une heure de gloire. La démocratie athénienne, c'est magnifique. Mmh. On en parle avec des sanglots dans la voix. Bon. La démocratie athénienne, c'était un groupe de personnes assez limité. Ces personnes-là se réunissaient sur l'agora. Voilà, donc ces personnes étaient dans un espace finalement qui leur permettait de se confronter, de se rencontrer, d'échanger. Et on voit bien aujourd'hui la difficulté que nous avons avec une démocratie sur un pays comme la France, où les gens se croisent de moins en moins, hein, peuvent se confronter localement, mais de temps en temps, on se pose un peu la question sur l'unité et la volonté d'unité de la nation elle-même. Et donc, une démocratie entre les personnes qui se confrontent, qui ont envie de vivre ensemble, ça a tout son sens. Et une démocratie entre les personnes qui ne se ressentent rien de commun, ça me paraît pas très possible. Donc, yes. Même si le rêve serait effectivement qu'on puisse décider en commun pour la planète, qu'est-ce qui est bon pour la planète, d'ailleurs, il y a quand même des actions dans ce sens-là. Hein. Il y a la prise de conscience d'une nécessité d'avoir une écologie mondiale respectueuse de notre planète, ça c'est excellent. Sur certaines thématiques, oui, c'est une nécessité. Et là, je pense que la conscience se fait jour qu'il faut
agir dans ce sens-là. Mais moi, je parlais pas d'une démocratie mondiale sur tous les sujets, mais justement avec le principe de subsidiarité, sur les sujets comme l'écologie ou comme la finance, qui doivent être régulés au niveau mondial.
Voilà. Donc sur les sujets particuliers, effectivement. Sur l'écologie, c'est une évidence. Et donc là, on voit des tentatives, un progrès qui se fait jour, et là, une prise de conscience qui est nette. Bon, sur la finance, il est évident que réguler la finance, après ce que nous avons connu en 2007 et l'année suivante, bon, la conscience est là que maintenant il faudrait mettre en place des structures plus nettes de gouvernance. Donc là-dessus, c'est une évidence, et là je la partage totalement. Est-ce qu'on en a les moyens aujourd'hui? Bon, je dirais que c'est en progrès, c'est un sujet en progrès.
D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez dire quelque chose avec laquelle tout le monde serait d'accord?
Alors, là, je vais botter en touche en citant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, donc là, je pense que c'est quelque chose sur lequel personne ne peut s'opposer réellement. Typiquement, si je prends l'article 25, hein, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. Bon, ça, c'est quelque chose auquel qui me paraît extrêmement fort. Chaque personne a droit à un niveau de vie décent. Bon, et ça, quand on parle de l'article 22, que chacun ait accès aux soins, à tout ce qui est indispensable à sa dignité, au libre développement de sa personnalité. Et ça, je pense que vraiment, nous avons une richesse de texte qui est reconnue au niveau mondial. Et ça, si on pouvait déjà mettre en œuvre la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce serait magnifique.
Oui.
Voilà, donc je pense que déjà, travaillons déjà avec ça.
D'accord. Est-il important d'augmenter le PIB?
Alors le PIB, je pense que tout économiste sait que c'était une mesure un peu arbitraire. Hein. C'est une convention, voilà, on mesure de telle manière. Une fois qu'on a compris que le PIB est un mécanisme arbitraire, on répond évidemment non à la question. Pour que chacun comprenne bien, le PIB, si quelqu'un a une femme de ménage et puis qu'il se trouve épouser sa femme de ménage, le PIB diminue. Bon, quel sens cela a-t-il d'un point de vue humain? On ne sait pas très bien. Quand on sait que les loyers fictifs que quelqu'un se verse en habitant son propre domicile, ça fait partie du PIB, pareil, c'est un peu aberrant. Voilà. Donc le PIB, je prends cet exemple-là juste pour illustrer la chose, c'est une convention qui a beaucoup de faiblesses. Il serait beaucoup plus intéressant d'utiliser des indicateurs plus reliés à l'humain, hein, au développement humain. Évidemment, il y a plein de propositions par rapport à ça. Donc ce serait plus intéressant de faire progresser ces indicateurs-là.
D'accord. Quel livre d'économie conseillez-vous?
Alors, livres qui ont marqué mes travaux, j'en citerai quelques-uns. Un des livres que j'ai lu il y a assez longtemps, c'est un livre de Dominique Méda. Donc c'est pas... Bon, c'est un livre un peu connu. C'est Le travail, une valeur en voie de disparition. Ce livre m'a beaucoup marqué, parce que pour moi, c'était une prise de conscience, justement, de toute la question qu'on peut se poser par rapport au travail en tant que travail salarié. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport à ça. Donc ça, c'était pour moi une prise de conscience. Depuis, bien de choses ont été écrites par rapport à ça, à cette question-là. Un livre également important pour moi, en termes de méthode, c'est un livre donc, de Karl Popper, c'est l'épistémologie, conjoncture et réfutation. C'est quelque chose que j'utilise énormément, qui est de dire, par rapport à une problématique donnée, comment est-ce qu'on peut analyser les choses et avoir un discernement et une approche des questions qui soit efficace et scientifique. Ensuite d'autres livres, Lionel Stoleru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches, c'était en 1974, qui a également beaucoup marqué également. Et puis plus récemment, Philippe Aguillon, Gilbert Sert et Eric Cohen qui ont écrit un petit livre, hein, Changer de modèle, qui explique bien que le système actuel souffre de très nombreux travers et qu'il est vraiment opportun et qu'il est même urgent de penser à réformer assez radicalement notre système économique, social actuel.
D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez le collectif PEPS pour une économie pluridisciplinaire, pour un enseignement pluridisciplinaire et pluraliste de l'économie? Et oui.
Alors, je connaissais un petit peu, donc j'ai un peu révisé.
Oui.
Et donc, le collectif PEPS. Donc, effectivement, je pense que l'économie souffre d'un grave travers, c'est qu'on l'enseigne comme une science, alors qu'on peut se demander si c'en est vraiment une.
Oui.
Et pour répondre,
je pense que la réponse est clairement non. Mais...
Voilà, c'en est clairement non. Voilà. Et c'est là que j'utilise Karl Popper pour élaborer la réponse. On pourrait dire que pour Karl Popper, le critère d'une science, donc qu'est-ce que c'est qu'une science? Le critère numéro un, c'est la réfutabilité. Et donc, la science économique n'est pas réfutable et qu'on n'est pas réfutable. En
ou,
tout
ou
cas,
plutôt elle est réfutée.
En tout cas, en tant que science, oui. Mais par contre, dans le fonctionnement des discussions économiques, nous n'avons pas mis en place un système qui permet de réfuter les théories. Donc quelqu'un dit, tiens, moi je suis pour le keynésianisme, moi je suis contre le keynésianisme, moi je suis pour ci, je suis pour ça. Donc tout le monde a des avis par rapport à un tas de théories économiques, mais il n'y a pas d'instance, il n'y a pas de mécanisme qui permet de dire ça, ah, ça on l'a testé, ça finalement, on est tous d'accord, ça ne marche pas, on remet ça au panier, on n'en parle plus. Il n'y a aucun mécanisme qui permet de réfuter des théories économiques, aucun. Et ça, du coup, fait que ben, on a une grosse faiblesse conceptuelle en économie.
Il y a quand même des méthodes économétriques qui permettent de voir si une théorie marche ou pas, et généralement, ça montre que les théories ne marchent pas.
Oui, voilà, ça c'est encore plus radical. c'est un avis encore plus radical. Mais nous avons tout de même une grosse difficulté par rapport à ça. Une grosse difficulté conceptuelle par rapport à la notion même de science économique. Et donc, avec le gros risque, effectivement, que l'économie soit dans une impasse conceptuelle. Et donc, toute proposition qui permet de sortir de cette impasse et d'élargir en y ajoutant la psychologie, la philosophie, les mathématiques et tout ce qu'on veut, c'est excellent.
D'accord.
C'est excellent.
Alors, comment s'organise votre journée type ?
Alors, ma journée type, c'est celle de quelqu'un qui a deux vies en parallèle, ce qui est tout à fait désagréable. Je le reconnaître, d'autant plus que je suis marié, j'ai un certain nombre d'enfants. Bon. Mm-hmm. C'est un équilibre très, très compliqué à trouver. Donc, le jour, je travaille sur mon travail de transformation dans mon groupe dans l'énergie. Et la nuit, les soirs, les week-ends, les jours fériés, les vacances, je travaille en économie. Voilà, ma journée type.
D'accord. Alors, dernière question. Quel est le travail le plus intéressant que vous avez fait ?
Pour répondre à ça, bon, je pourrais répondre facilement que c'est la thèse en économie qui était un travail très intéressant, ça n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais je répondrai également sur l'autre aspect, c'est que dans mes travaux de refonte ou d'amélioration des processus internes, j'ai pris beaucoup de plaisir à mettre en place des changements assez forts dans différentes entreprises et que ça fonctionne. Mmh. Ça fonctionne et ce que j'ai mis en place, en général, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, ça tourne toujours, donc c'est plutôt rassurant.
D'accord. Alors, avant de passer au revenu de base et à la fiscalité, comme vous m'aviez dit que vous travaillez dans le secteur de l'énergie, il y a une question que je me pose depuis que j'ai lu le livre de Jeremy Rifkin, La Troisième Révolution Industrielle, où il dit qu'un des changements majeurs qu'on doit attendre de la société, c'est de passer d'un réseau électrique constitué de grandes centrales à un réseau de micro-centrales décentralisées, donc c'est-à-dire une éolienne sur chaque maison en gros. Et donc il ne justifie pas par des calculs ou en citant des études scientifiques qu'on y gagnerait en efficacité, etc. Et pour moi, il y a deux choses qui s'opposent. D'une part, quand on centralise la production, il y a des rendements d'échelle. Mais d'un autre côté, quand on décentralise, on a beaucoup moins de pertes pour acheminer l'énergie, sachant qu'il y a énormément de pertes dans les... Enfin, par exemple, si on fait une énorme centrale solaire dans le Sahara et qu'on transporte l'énergie en Europe, je ne sais pas quelles seront les pertes, mais elles risquent d'être colossales en termes d'énergie qu'on arrivera à acheminer au bout. Oui. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous connaissez les études qui permettent de déterminer lequel des deux est le mieux ?
Bon. Par rapport à ça, je ne suis pas spécialisé par rapport à cette question-là.
D'accord.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que probablement, il faut raisonner en termes de bouquet de solutions, avec selon les localisations, selon les géographies, selon les usages et autres, effectivement, des solutions panachées, variées. Je ne crois pas au tout nucléaire, je ne crois pas au tout solaire, je ne crois pas à ci, je ne crois pas à ça. Je pense vraiment qu'il faut raisonner sur des choses... sur les solutions d'avenir, qui soient des solutions avec du renouvelable, évidemment, le plus important possible. Mais on n'a pas trouvé la solution miracle qui répond à tout. Et ça, je ne pense pas qu'on la trouvera en réalité.
D'accord. Sur les pertes par effet joule, quoi, le long des câbles électriques, est-ce qu'il y a des avancées technologiques en ce moment ou est-ce que sur 1000 km, on perd 90% de l'énergie ?
Par rapport à ça, encore une fois, je ne sais pas spécifier cette question-là, mais il est certain que la question de la gestion du réseau de distribution, c'est une question extrêmement importante, non seulement d'un point de vue efficacité énergétique, mais également l'administration de ce réseau. Avec, si c'est un réseau national où on branche un tas d'équipements plus petits, effectivement, il faut pouvoir synchroniser tout ça. C'est une question compliquée. Donc là, on met en place des réseaux intelligents qui permettent d'agréger plus facilement des différentes centrales de production. Donc ça, c'est un sujet effectivement qui est un sujet qui n'est clairement pas abouti, qui est en progrès permanent, sur lequel les ingénieurs travaillent et apportent des solutions tout à fait brillantes.
D'accord. Donc passons au cœur du sujet, donc le revenu de base. Alors, est-ce que vous pouvez détailler le fonctionnement? Alors peut-être qu'il faut d'abord détailler pour les auditeurs, alors rapidement parce qu'on pourrait y passer des années sinon, le fonctionnement des impôts en France et ensuite donc la réforme que vous proposez.
Alors, en France, alors je vais être plus large que les impôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle de donner à chacun un revenu de subsistance, nous avons une réponse multiple en France. Nous avons toutes les aides sociales qui répondent à ça, avec donc, le RSA qui est le plus connu. Bon. Ensuite, il y a des différentes options avec les allocations familiales pour les enfants. Vous avez les allocations adultes handicapés dans certains cas. Vous avez différentes. Bon, il y a plein d'outils qui existent. Mais les plus gros, si on prend, c'est allocation familiale pour les enfants et le RSA pour les adultes. Bon. Donc, ça, c'est l'argent qui vous est versé par les allocations familiales ou par d'autres organismes, selon les cas. Ça, c'est bon, c'est l'argent que vous avez donné. Et puis, par ailleurs, vous avez un système fiscal qui assure une certaine progressivité. Et si vous avez peu de ressources, on vous prend moins. Voire, dans certains cas, on vous en donne. Le fisc peut vous en donner avec la prime pour l'emploi, qui va disparaître d'ailleurs. Et puis, vous avez également d'autres impôts qui sont des impôts proportionnels, comme la TVA, comme la CSG, qui est à peu près proportionnelle au revenu. Donc, le fait qu'on veuille donner à chacun une somme d'argent, ça passe avant tout par le système social, et puis la fiscalité est censée financer cette chose-là. Mais tout ceci se fait de manière assez opaque. Aujourd'hui, personne ne sait répondre, vous expliquer comment est-ce que le RSA est financé. Bon, on le sait, on peut trouver la réponse, mais intuitivement, on ne sait pas. Sur les allocations familiales, bon, ceux qui ont vraiment détaillé leur fiche de paye, bon courage, ont peut-être remarqué une ligne disant « cotisation à l'allocation familiale ». Effectivement, c'est par là que c'est financé. Donc tout ceci est un ensemble qui n'est pas très simple, qui n'est pas très équilibré, ce qui est un peu embêtant aussi. Et donc là, l'idée, c'est que quand on parle de mettre en place un revenu de base, un revenu d'existence, l'idée, c'est de mettre en place un processus qui soit clair, vraiment clair pour tout le monde, qu'on puisse vraiment comprendre, et qui soit totalement équilibré par construction. La solution la plus simple, c'est que sur tous les revenus, et là on dit tous les revenus, ce n'est pas uniquement les revenus du travail, ce n'est pas uniquement les salaires, c'est les revenus de la propriété, donc les loyers, les dividendes, les plus-values diverses et variées, donc c'est tous les revenus.
Sans compter le revenu de base.
Ah non, bien sûr.
Ouais.
Tous les revenus qu'on reçoit, les pensions de retraite, les pensions de chômage, tout ça, tout ce qui vous arrive dessus, on prélève une somme. Alors, dans un schéma très simple, on peut dire que c'est un prélèvement proportionnel. Tout le monde paierait, mettons, 20%, 25% de ses revenus. Cet argent est mis dans une caisse commune, et cette caisse commune, on la divise équitablement entre tout le monde. C'est le schéma le plus simple qui soit. C'est, on prend, allez, simplifions, 25% de tous les revenus, on peut prendre à la source, on le prend de manière le plus efficace possible, on prend ces 25%, on les met dans une caisse qui est la caisse du revenu de base, et clac, on découpe ça en 65 millions d'habitants, on divise ça à tout le monde.
D'accord. Mais donc en supprimant tous les impôts existants?
Alors on supprime quoi? Alors on supprime tous les outils qui ont aujourd'hui, qui contribuent à cette redistribution. Donc dedans, on supprime le RSA, on supprime les allocations familiales, on supprime la complexité redistributive de l'impôt sur le revenu. Vraiment, on fait un ménage assez important. On supprime le premier plan emploi, bien entendu. On supprime tout ce qui joue. Voilà. Quand on regarde également au niveau des cotisations sociales, il y a également une certaine progressivité dans la cotisation sociale. Mais pareil, on élimine les manières. On se dit que ce revenu de base, c'est quelque chose qu'on veut vraiment donner à tout le monde. Et donc, si on fait ça, il faut éliminer tout ce qui bricole, des petits bouts de redistribution par-ci, par-là. Parce que si on garde des trucs dans tous les coins, on ne s'en sortira jamais.
Donc, et on garde un impôt pour financer le service public?
Alors ensuite, il y a la TVA, il y a éventuellement d'autres impôts progressifs, pourquoi pas, hein, qui financent la justice, l'éducation, l'armée, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc ça, c'est autre chose.
D'accord.
Voilà. Mais ça, c'est évidemment, c'est en plus, forcément. La santé, c'est un sujet énorme, il faut une CSG pour la santé. Enfin, tout ça, ça se fait en plus. Mais là, déjà, on dit tout ce qui est redistributif, on concentre dans un seul outil qui est sur une base et ce prélèvement, a priori proportionnel, sur toute la population.
D'accord, parce qu'actuellement, il n'y a pas un budget de l'État sur lequel on prélève une partie pour financer le revenu de base. Il y a vraiment un canal qui passe directement des salaires à la cotisation dont vous parliez, qui va financer le RSA.
Aujourd'hui, on a quelque chose qui est tellement compliqué, qui passe par tellement d'outils, tellement de dispositifs, tellement d'exceptions, que plus personne ne sait vraiment comment ça fonctionne.
Oui.
Faut vraiment faire une thèse en économie pour s'en sortir,
Mais
quoi.
d'accord, mais on n'a pas. Parce que naïvement, on penserait que l'État capte donc plein de taxes différentes et le redistribue dans plein de dispositifs différents.
Oui.
C'est comme ça? Ou alors est-ce qu'il y a des différents canaux quoi,
Et
qui vont directement de l'un
ce
à
qu'il faut
l'autre?
voir, c'est que le premier outil, le premier moyen pour l'État de donner de l'argent, c'est de ne pas le prendre. C'est-à-dire que le premier moyen de donner de l'argent pour l'État, c'est de ne pas le prélever. Donc, les exonérations, quotient familial, quotient conjugal, les différentes tranches de prélèvement, tout ça, c'est un moyen pour l'État de ne pas prendre sur certaines populations choisies pour un tas de critères. Et donc, quand on parle de redistribution, ben c'est de l'argent qui est versé, c'est aussi de l'argent qui n'est pas prélevé. Donc c'est la somme de tout ça qui forme la redistribution française. Et ce qui est très impressionnant, c'est que quand on fait la somme de tous ces mécanismes-là, qu'on les étudie bien, on se rend compte que, en moyenne, la résultante de toute cette complexité, c'est quelque chose qui est finalement assez simple. C'est que la redistribution moyenne en France, c'est une ligne droite quasiment. Si
Sauf
on...
peut-être pour les 10 %.
Bien sûr, il y a plein d'exceptions.
Non, mais c'est ça, mais c'est que. Oui.
Mais la moyenne est quand même très très fortement alignée sur une ligne droite.
Oui, on trouve cette courbe pour une révolution fiscale, par exemple.
On trouve ça. Donc, Piketty, Saez et Landais, effectivement, ont étudié ça. Ils ont montré même, eux, ont intégré la TVA dedans. La TVA, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à analyser, parce qu'il y a plusieurs écoles sur l'analyse de la TVA. Mais si on met de côté la TVA, effectivement, on a quelque chose qui est très proche d'une ligne droite. Et donc, du coup, si on fait une ligne droite en termes de redistribution, bah, plutôt que faire ça avec 45 dispositifs différents, même beaucoup plus, bah, faisons ça avec un outil qui consacre à ça, qui fait la ligne droite très proprement et qui prend en compte, qui répond de manière vraiment simple et efficace à la problématique de distribution et de revenus d'existence à chacun.
Parce que je rappelle aux auditeurs qu'il y a 150 000 personnes qui travaillent pour le ministère de l'économie, dont une bonne partie dont le travail, c'est de prélever les impôts et de s'occuper de tout ça. Donc, alors si on résume, dans la réforme que vous proposez, donc ça serait un remaniement des cotisations, on supprimerait donc, enfin on remplacerait plutôt donc APL, RSA, allocation
Alors,
familiale.
attention, alors, ce n'est pas le grand soir. C'est-à-dire qu'il faut être bien conscient que la première difficulté que les personnes rencontrent quand elles sont dans une situation de rupture, c'est la question du logement. Et donc, d'apporter un service du logement efficace, ça a une difficulté vraiment
Donc,
majeure.
on n'inclut pas les appels dans le revenu de base.
Voilà, donc l'aide qui est apportée pour se loger, que ce soit sous forme d'APL ou d'aides diverses et variées, tout ça, ce budget-là, il faut le préserver absolument, peut-être même le développer, peut-être l'améliorer dans son fonctionnement. Voilà. Et ça, le service du logement, c'est une priorité nationale et ça doit le rester. Donc le revenu de base, justement, ne touche pas du tout à cette notion-là. Le logement, c'est en plus. Ça n'a rien à
D'accord.
voir. C'est un point important. De la même manière, tout ce qui est contributif, c'est-à-dire quand quelqu'un cotise pour sa retraite, par exemple, parce qu'il a cotisé dans sa retraite, c'est une assurance retraite, ben très bien, super, c'est un fonctionnement d'assurance, les caisses retraite gèrent ça, c'est à part.
Pareil pour le chômage.
Pareil pour le chômage, on cotise pour son chômage, dans une caisse de la CEDIC, très bien.
Pareil pour la santé.
La santé, alors la santé, moi, je pense que là, la santé, nous sommes mûrs pour faire une transition. La santé est encore vue comme quelque chose qui est un peu mixte entre de l'universel et la cotisation sociale, bon. Finalement, le fait de se santé, le fait de se soigner, qu'on soit salarié, entrepreneur, au chômage ou autre, c'est ça ne doit pas faire une différence. Donc là, dans mon idée, c'est qu'il faudrait que la santé devienne totalement financée par l'impôt à 100%. Et donc, le système le plus simple, ce serait de mettre en place une CSG. Donc on pourrait spécialiser une CSG pour financer la santé. L'ordre de grandeur du taux, c'est de l'ordre de 12,5%. Donc avec une CSG à 12,5%, on finance intégralement la santé, qui sera un service universel et ouvert à toute la population vivant sur le territoire. Et donc ça, c'est évidemment, c'est à part de revenu de base.
D'accord. Et on garderait un impôt sur le revenu progressif.
Alors l'impôt sur le revenu progressif, donc là, c'est la question du financement des autres services. Financement du service du fonctionnement de l'État, de l'éducation, de l'armée, etc. Tout ça, par rapport à ça, il y a plusieurs moyens de répondre. D'une part, il y a la TVA qui assure déjà une partie importante de ce financement-là. Et puis, aujourd'hui, l'impôt sur le revenu participe également. On peut tout à fait imaginer qu'on développe plus fortement, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'on développe plus fortement une imposition du patrimoine, justement, pour financer ces services importants de la collectivité. Et à ce titre, cet impôt sur le patrimoine peut être calqué sur ce qui est fait sur la taxe foncière, qui n'est pas extrêmement efficace, sur l'ISF, qui rapporte très peu, qui n'est pas efficace du tout, on va dire, et qui est extrêmement critiqué, ou alors quelque chose qui est beaucoup plus simple, qui serait un impôt proportionnel, ou peut-être une petite progressivité, sur les patrimoines. Et ça, toutes les modélisations qu'on peut faire par rapport à ça montrent une efficacité en termes de rendement qui est très élevée. Donc voilà, donc personnellement, je suis assez en faveur d'une taxation sur les patrimoines.
Pourquoi taxer les patrimoines plutôt que les revenus du patrimoine?
Alors, les revenus du patrimoine, on les taxe. Aujourd'hui, il y a un différentiel. Les revenus du patrimoine sont moins taxés que les revenus du travail.
Oui.
Et donc ça, pour moi, c'est une anomalie qu'il faut corriger.
Et donc, il y a un prélèvement forfaitaire pour les dividendes, par exemple.
Voilà. Moi, je pense qu'il faut éliminer tout ça et dire, OK, que ce soit pour financer la santé, pour financer les revenus de base, le prélèvement doit être strictement identique sur tous les revenus, que ce soit revenu du travail, patrimoine, zéro différence. Donc là, ça fait quand même un changement assez radical. Pareil sur le revenu des retraites. Les retraites, chômage, qui ont un prélèvement très faible.
Oui.
Et donc là, on renforce considérablement.
Oui.
Typiquement, les retraités cotisent très peu pour la santé, alors que ce sont eux qui consomment très largement. Donc là, c'est quand même quelque chose de très bizarre. Donc là, vraiment, c'est uniformiser vraiment tous les prélèvements sur les revenus. Et ensuite, en termes de progressivité, une fois qu'on a bien compris que les patrimoines sont distribués de manière extrêmement peu égalitaire, beaucoup plus inégalitaire que les revenus, je pense que l'accent qu'il faut mettre, et là je rejoins Piketty, c'est plus sur l'imposition des patrimoines que sur l'imposition des revenus.
Mais alors, vous n'avez pas répondu à la question, pourquoi est-ce qu'on imposerait plutôt le patrimoine plutôt que les revenus du patrimoine?
On impose les revenus du patrimoine d'une part, et repose.
Et
on impose aussi les patrimoines.
Non, parce que les revenus du patrimoine, on les impose au même niveau que les revenus du travail, dans ce que vous proposez. Et en plus, on impose les patrimoines. Mais pourquoi est-ce qu'on ne choisirait pas de ne pas imposer le patrimoine, mais d'imposer plus fortement les revenus du patrimoine?
Alors, il y a les patrimoines qui structurellement, génèrent peu de revenus.
Oui, justement. Par exemple, si on a un château et que c'est une charge, ça peut paraître bizarre de devoir payer des impôts dessus alors que ça nous coûte déjà de l'argent. Alors que, au contraire, si on a un patrimoine qui a un rendement énorme, qu'on paye la même chose dessus que sur le château.
Alors imaginons, je prends une analogie, parce qu'on parle sur le château, je prends une autre analogie. Quelqu'un qui est propriétaire d'un magasin sur les Champs-Élysées.
Oui.
Donc la place, son truc, doit coûter 10 millions. Enfin, avec une belle place sur les Champs-Élysées. S'il se débrouille, s'il est mauvais commerçant et qu'il a un faible revenu avec son magasin sur les Champs-Élysées, est-ce qu'il vaut mieux l'imposer sur le revenu de son mauvais magasin, ou est-ce qu'il vaut mieux l'imposer sur le patrimoine que constitue son magasin? Je pense qu'il vaut mieux l'imposer sur son patrimoine. Et s'il est mauvais commerçant, qui vend ça à quelqu'un qui sera un bon commerçant? Je pense qu'un patrimoine, c'est une part d'un patrimoine collectif qui appartient par naissance à toute la population d'un pays. Et donc quand on privatise un patrimoine pour soi-même, finalement, on est quelque part, on est en location de son patrimoine. La preuve en est que quand, à la fin de sa vie, on sort dans une petite boîte en bois, ce patrimoine, on ne part pas avec. Donc en réalité, le patrimoine dont on dit qu'on est propriétaire, en réalité, on est locataire pendant la durée de sa vie. Alors, et donc, grâce à ça, je pense qu'il faut raisonner un peu différemment, c'est-à-dire que le patrimoine, c'est quelque chose qui a vocation à passer à d'autres, et donc, on peut tout à fait payer un loyer sur ce patrimoine, quels que soient les revenus qu'on en tire.
Alors, donc, pour finir avec la taxation des patrimoines, est-ce que vous êtes pour un changement de la fiscalité des successions? Et pourquoi taxer les patrimoines plutôt que les successions?
Alors là-dessus, effectivement, le constat, c'est que actuellement, il y a une taxe sur les revenus du patrimoine, une taxe sur le stock de patrimoine, il y a une taxe sur la transmission du patrimoine, il y en a même plusieurs d'ailleurs. Là, donc on taxe le revenu, la succession, enfin la transmission et le stock. Tout ceci, évidemment, déclenche un tas de passions, un tas de discussions. Et quelque part, c'est pas très sain. Du coup, la fiscalité par rapport à ça manque de légitimité. Aujourd'hui, on a du mal à dire qu'il y a un impôt légitime. Il y en a un qui passe assez bien, c'est la taxe foncière, où là, finalement, on est habitué à ça, et donc, finalement, la taxe foncière, bon, on la quitte, tout le monde râle, mais bon, il n'y a pas trop de remous. Bien que la taxe foncière, depuis les années 70, où l'assiette n'a pas été remise à niveau, donc il y a quand même beaucoup d'inégalités, d'iniquités dans la taxe foncière. Mais bon, passons. Il y a plein de problèmes dans les taxes actuelles. Donc mon schéma, moi, ce qui me paraît plus naturel, c'est justement de dire que si on reste sur l'idée que chaque individu, finalement, est locataire du patrimoine qu'il utilise pendant sa vie, bien, il serait légitime que, sur la durée de sa vie, il est payé à la communauté, donc une forme d'impôt, il est payé à la communauté le montant total du patrimoine qu'il a utilisé pendant sa vie. Et donc, si on estime que la vie moyenne d'une personne, c'est de l'ordre de 80 ans, eh bien, moi, je dis, mettons en place une fiscalité où tous les ans, on paye 1,25% de tout ce patrimoine à l'État. Et donc, on restitue un loyer qui correspond à l'usage qu'on va faire de ce patrimoine pendant toute sa vie. Et je vois une certaine légitimité à ça. C'est un schéma qui me paraît avoir du sens. Et donc, quelqu'un qui hériterait de patrimoine, n'importe quoi, de 10 millions d'euros, s'il ne fait rien pour augmenter son patrimoine, si son patrimoine est stable, au bout de 80 années, il aura payé 10 millions d'euros d'impôts à l'État. Toutes choses égales par ailleurs.
Et donc sur les successions
je laisse tomber.
On supprime l'impôt sur les successions.
On supprime l'impôt sur les successions, c'est-à-dire qu'on dit finalement, un patrimoine, il est de la nature, les gens l'utilisent, très bien, s'ils l'utilisent, ils payent un loyer qui est de 1-25% ou ce qu'on truc ajusté sur l'ensemble de ce patrimoine.
Est-ce que vous ne trouvez pas ça injuste que si on est au bon endroit, on hérite de 10 millions d'euros, sur lesquels on devra payer 1,25% par an, et grâce auxquels on gagnera 3 ou 4% par an, même si c'est bien géré, 6% par an. Donc ce qui fait que chaque année, si on fait la différence, on gagnera 2 ou 3% de 10 millions d'euros par an.
Il y a une autre approche, effectivement, qui a tout à fait son sens, c'est de dire que finalement, chaque individu naît avec rien et se construit tout seul. Et donc, que le patrimoine appartient réellement à la collectivité et que la collectivité décide d'allouer à la naissance, à chacun, un bout de ce patrimoine. Mais qu'il n'y ait plus de succession du tout dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il faut aller au bout de la logique.
Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous préférez, vous, garder les successions?
Pour moi, les deux schémas ont du sens. Je pense que le schéma implémentable, c'est celui que vous avez décrit. Je pense qu'un schéma où on... Le schéma qui est implémentable, c'est celui que je vous ai décrit, où on met en place un loyer annuel sur l'usage du patrimoine que l'on détient à un moment donné.
Ça n'évacue pas les injustices.
Ça ne fait rien par rapport aux inégalités de patrimoine à l'origine. Ça ne fait rien par rapport à ça.
Oui.
Mais ça, c'est implémentable. Et là, je dirais qu'il pourrait y avoir un accord très large par rapport à ce genre de mesures. Par contre, une approche comme si c'est-à-dire tous les patrimoines à la fin de votre vie, on ramène ça dans la communauté nationale et ensuite chacun voit ce qu'il peut acquérir par ses propres moyens, c'est quelque chose qui est une rupture énorme et je ne sais pas très bien quelle configuration politique pourrait arriver à ce résultat-là. Les révolutions communistes comme on a connu.
Sans aller jusque-là, on peut imaginer une fiscalité progressive sur les successions. Avec par exemple sur les 100 000 premiers euros, 0% d'impôt. Et puis, je ne sais pas, si on transmet 1 milliard d'euros, et ben dans ce cas, ça serait très fortement taxé.
C'est une option qui a du sens.
D'accord, donc vous n'êtes pas tranché sur la question?
Je pense que ça a du sens. Je ne vois pas du tout quelle configuration politique pour arriver à mettre ça en place.
Ben pour l'instant, on a déjà une fiscalité plus ou moins progressive sur les successions.
Tout à fait.
Pas
très progressive, qui dit que si on fait succession à ses enfants, bon, on est prélevé un petit peu. Si c'est à ses neveux, c'est plus. Si c'est à sa belle-mère, c'est encore plus. Et voilà, tout ce schéma qui fait que la succession dépend du lien familial qu'on a avec la personne qui est disparue. Bon, tout ceci, ce sont des conventions. Ça peut évoluer, ça peut bouger. Le problème, c'est que si on veut arriver à quelque chose qui fasse vraiment du sens et qui soit compris et accepté par toute la population d'un pays, il faut que les riches comme les pauvres y trouvent du sens. Mmh. Et ça, c'est compliqué. Parce que la majorité de gens qui sont peu fortunés trouvent une très bonne idée sur quelque chose qui va taxer les riches, ça, c'est facile à faire. Mmh. Et la démocratie est un bon outil pour que 90% de la population soit d'accord pour taxer fortement les 10% les plus riches. Ça, c'est facile à faire. Mmh. Je ne crois pas que ce soit une solution sur le long terme.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a un moment où les 10% vont se barrer et les 80, et les ceux qui sont dans la tranche 80-90 vont se retrouver les plus riches, ils vont souffrir, et donc et ainsi de suite. Il y a une sorte d'équilibre qu'il faut trouver. Alors, je ne sais pas quel est le bon équilibre, mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir ce souci-là de mettre en place un système qui ne soit pas quelque chose qui va, être insupportable pour les plus riches.
Est-ce que vous pensez que la fiscalité en France actuellement, elle est suffisamment progressive et que donc, tout ce que vous proposez, c'est juste pour simplifier, pour rendre les choses plus claires, ou est-ce qu'on a besoin de plus de progressivité?
Je pense que la France, même si on n'est pas les derniers là-dessus, que sur l'imposition du patrimoine, il y a beaucoup de patrimoine dormant sur lequel l'imposition est faible et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Je pense qu'il y a des patrimoines qui ne produisent rien, qui ne sont, sont pas exploités, qui ne sont pas utilisés, qui sont juste maintenus par les personnes qui ont un usage très faible, et ce n'est pas ça. Donc je pense qu'il faut largement dynamiser la fiscalité du patrimoine, de manière à ce que les patrimoines soient incités beaucoup plus à tourner.
Oui, mais dans la fiscalité que vous proposez, c'est une fiscalité proportionnelle, en fait. La question de la progressivité, est-ce que vous pensez que
la fiscalité proportionnelle,
qu'il faut augmenter la progressivité taxation en France?
Si on prend une imposition à 1,25%, en estimant que l'assiette va être réduite de moitié, un plan très difficile, on ramène quand même de l'ordre de 80 milliards d'euros dans les caisses tous les ans. Mm-hmm. 80 milliards d'euros. Aujourd'hui, la taxe foncière, c'est 17 milliards d'euros. Mm-hmm. L'ISF, c'est 4 milliards d'euros. Donc, Et les taxes sur succession, c'est de l'ordre de 15 milliards d'euros. Bon. Donc si on prend un simple ça, on fait plus que doubler la productivité de l'impôt en mettant en place quelque chose qui est, effectivement, même si on prenait que ce schéma proportionnel, on aurait déjà une très forte progression du revenu de cette imposition. Très forte progression. Donc, il faut bien se rendre compte que mettre en place des systèmes où on pointe très fortement une population donnée, ça aboutit toujours à une réaction de la population en question. Mm-hmm. Soit les gens qui vont se barrer ailleurs, comme on a vu dans tous les cas, les gens qui sont allés s'installer en Russie, en Belgique ou ailleurs, ça, on voit ça tout le temps. Et puis, ou les gens qui cachent le patrimoine, même des ministres qui font ça, ce qui n'est pas très glorieux. Donc voilà, donc on a forcément des comportements pour éviter l'impôt. Et ça, c'est pas bon, ni d'un point de vue financier, et pour l'économie publique, ni d'un point de vue, je dirais, unité de la nation. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à des solutions qui soient efficaces d'un point de vue économique, mais également qui ne soient pas une contrainte épouvantable pour certaines catégories, qui du coup mettent en place des solutions qui sont pas bonnes, quoi, pour la collectivité.
Et donc, vous ne pensez pas que taxer les patrimoines à hauteur de 1,25%, ça va faire que les capitaux vont partir?
Ah, je ne pense pas. Du moment que tout le monde comprend bien que là, c'est un loyer qui est dû pour l'usage d'un patrimoine pour toute la population et qu'il n'y a pas de débat et que tout le monde est au même taux.
Et sur la progressivité, j'insiste parce que je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez faire une réponse simple, oui ou non? Est-ce qu'il faut que ce soit plus progressif?
Et si ça soit plus progressif, ma réponse est ni oui ni non, parce que je pense que là, vous posez la question par rapport à l'imposition des revenus.
Je pose la question en général.
Alors, en général, la question qui est posée, c'est par rapport aux revenus. Oui. Et moi, là-dessus, et je suis d'ailleurs d'autres personnes qui travaillent là-dessus, je travaille beaucoup plus et je suis beaucoup plus motivé pour progresser sur l'imposition des patrimoines. Et donc, du coup, la progressivité de l'impôt sur le revenu m'en diffère un peu.
Donc, en
pour
fait,
moi, ce n'est pas,
donc
pas
en
vraiment
fait, pour,
sujet.
Pour
pour
vous,
moi,
c'est
un faux sujet.
Donc, en fait, pour vous, la progressivité, si j'ai bien compris, la progressivité de l'impôt sur le revenu, elle est bonne en France.
Non, non, je ne dis pas qu'elle est bonne.
Alors que sur le capital, elle n'est pas assez progressive.
Moi, je m'occupe peu de la progressivité. Ce qui me paraît important, c'est que tout ceci ait du sens. Nous souffrons beaucoup du fait que l'impôt n'a plus de sens. Les gens cherchent tous les moyens d'échapper à l'impôt. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il faut absolument réinventer des formes d'imposition qui aient du sens pour tous, qui aient du sens pour les pauvres et qui aient du sens aussi pour les riches. Le jour où Mme Bettencourt comprendra pourquoi elle demande de payer tant de milliards d'euros et qu'elle dira « Ok, ben, c'est la règle, ok, je comprends, et je paye tranquillement », on va faire un grand pas. Je pense que les solutions qui consistent à dire « Il faut absolument faire payer les riches et les faire payer et les faire payer et les faire payer », c'est quelque chose qui divise la nation. Donc il faudrait quelque chose qui soit, qui ait vraiment du sens. Quoi. C'est le point important.
D'accord, donc ça pourrait être une solution avec plus de progressivité ou moins de progressivité.
Tant que ça a du sens, moi, là-dessus, c'est pour ça que je ne réponds pas, je veux pas me laisser enfermer dans la question de la progressivité. Mmh. Je pense vraiment à la question du sens qui est première.
D'accord. Alors, dernière question, quel montant, c'est la question qui tue, quel montant est-ce que vous prévoyez pour le revenu de base?
Alors, pour le montant, il y a plusieurs manières d'aborder la question, de nombreuses manières d'aborder la question. Yolande Bresson, donc le professeur d'économie, avait donc dans ses études calculé que le montant naturel qui a du sens, enfin, pour un tas de raisons que je ne vais pas détailler ici, est évalué à l'ordre de 15% du PIB. C'est-à-dire qu'il est légitime et efficace et ça marche bien. Si on met en commun 15% du PIB d'un pays, on parlait tout ça sur le revenu, et on le redistribue équitablement, enfin, de manière égalitaire entre toute la population, c'est quelque chose qui fonctionne bien d'un point de vue macroéconomique pour un tas de raisons.
Je viens de faire le calcul là dans ma tête, ça fait quoi? Ça fait 300 euros par français? 300 euros par mois par français en gros?
C'est un peu plus que ça.
Un peu plus.
C'est-à-dire que là-dessus, Yolande, donc lui, parlait beaucoup d'une somme qui serait égale pour toute la population, y compris les enfants, voire les jeunes enfants. Oui. Par rapport à ça, moi j'ai un avis un peu contrasté qui est de dire que il est peu légitime de mettre en place un revenu de base pour les enfants, qui serait notablement supérieur à ce qu'il est aux aides qui sont apportées aujourd'hui.
Donc, soit en moyenne de 200 euros par mois.
Qui est l'ordre de 200 euros par mois, absolument pour les enfants. Et donc, moi, je dis, bah, il vaut mieux que pour les enfants, on reste sur cette moyenne de 200 euros par mois, et une certaine légitimité à ça. Bon, c'est un complément. Et donc, les parents font leur choix en fonction de ça. Hein. Et par contre, pour les adultes, si on garde effectivement ces 15% du PIB, mécaniquement, ça nous fait un ordre de grandeur pour le revenu de base qui est de 450 euros par mois. Mmh. Ça, c'est ce qu'il calcule si on est sur les 15%. 450 euros par mois, c'est également le niveau...
C'est moins que le RSA?
C'est à peu près le niveau du RSA hors forfait logement. Mmh. Le forfait logement qui est donné quand il n'y a pas d'aide au logement. Donc les personnes qui ont souvent envie de logement, donc du coup, il n'est pas fourni. Donc, si on met de côté vraiment toute la question du logement, y compris le forfait logement, mais ça vraiment à part, ça vraiment faut considérer à part, dans ce cas-là, le RSA, on va dire sec sans aide au logement, c'est de l'ordre de 450 euros, un peu moins. Donc ça donne un repère. Mm-hmm. Ça donne un repère. Est-ce que c'est ma préconisation? Je dirais non et oui. Non pas oui et non, mais non et oui. Non, parce que, première chose, je fais un travail d'économiste, c'est-à-dire que j'essaie d'analyser ce qui a du sens, ce qui est faisable, qu'est-ce qui pourrait fonctionner par rapport à un certain système. Mais décider quel est le montant que la communauté décide d'allouer à chaque adulte, c'est une question qui est avant tout politique. Il faut qu'à un moment donné, que cette discussion ait lieu au Parlement, où les avis s'expriment, où les différents corps constitués, les différentes associations, tout le monde s'exprime, et au final qu'on arrive à une décision. Et donc cette décision ne peut pas être une décision technique. C'est le choix d'une nation de dire nous voulons que toute la population de ce pays ait 450 euros, 500 euros, 520 euros, 472 euros. C'est une décision totalement politique. Et donc voilà, donc j'apporte cette analyse qui est de dire techniquement, à toute chose étant égale par ailleurs, dans le système actuel, avec le niveau du PIB actuel, à niveau de redistribution actuelle, l'ordre de grandeur observé de la moyenne actuelle, c'est de l'ordre de 450 euros par adulte, 200 et quelques euros par enfant. C'est tout ce que je dis. Voilà, donc j'ai dit non, c'est que je ne préconise pas ce montant-là. Je dis voici ce qu'on observe aujourd'hui. Ensuite, est-ce qu'on peut imaginer d'aller vendre une réforme de cette nature, qui est une réforme importante? Il faut quand même bouger beaucoup d'éléments de notre système actuel, en mettant en place en même temps un montant beaucoup plus élevé, qui serait donc du coup une dépense fiscale importante. C'est difficile à envisager. Donc là, effectivement, il faudra que les députés et tous les responsables politiques réfléchissent bien au dosage qui va bien. Et j'imagine probablement que ce sera entre 450 euros, 500 euros, toutes choses égales par ailleurs.
Et alors, sur la façon dont on pourrait voter le montant, parce que on voit mal à l'Assemblée, si ça se vote avec le processus actuel, j'imagine qu'un ministre va proposer un chiffre et puis on va faire voter oui-non aux députés. Donc au final, on ne prendra pas tellement en compte leur voix individuelle. Qu'est-ce que vous penseriez de la méthode suivante? C'est qu'on demande à un échantillon représentatif de la population de choisir un montant pour le revenu de base. Donc ils peuvent dire 0 euros, ils peuvent dire 1 000 euros par mois. Et on fait la moyenne de ces propositions. Et ensuite, on soumet ça à un référendum.
Alors, nous avons dans ce pays quelque chose qu'ils appellent la démocratie, avec un fonctionnement qui est prévu, qui est dans la Constitution, qui est avec un Sénat, avec une Chambre des députés. Bon, tout ceci, c'est la méthode démocratique de notre pays. Est-ce que ceci est efficace dans tous les cas? Probablement pas. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas intérêt de temps en temps à essayer d'utiliser des méthodes un peu différentes et un peu créatives? Oui, probablement. Mais à part vous dire pourquoi pas, je n'ai pas d'avis personnel là-dessus.
D'accord.
Je ne peux pas dire que ce soit forcément meilleur qu'autre chose. Je n'en sais rien.
D'accord.
Je pense qu'il faut peut-être se garder un petit peu de dire, tiens, si on interrogeait 1 000 personnes, du coup, ça sera meilleur que d'interroger 500 députés. Je ne suis pas certain de ça. Mmh. Donc voilà, mais ensuite, tout est ouvert.
Mmh. Et vous, si on vous demandait le montant, par la méthode, si jamais vous étiez dans l'échantillon que je viens de décrire, qu'est-ce que vous choisiriez?
Moi, je n'ai pas d'avis.
Donc vous ne choisiriez pas?
Je ne choisirais pas parce que je ne suis pas dans la situation d'être en besoin par rapport à ça, personnellement. Mmh. Et comme je suis effectivement, je travaille énormément sur ces questions-là d'un point de vue technique, si vous voulez. Donc du coup, mon jugement est trop technique.
D'accord.
Donc voilà, je pense qu'il n'est pas représentatif.
Alors pour finir, est-ce que vous avez une question à me poser? Parce que moi, je vous ai posé beaucoup de questions. Donc maintenant, c'est à mon tour.
Vous-même, que pensez-vous de cette question du revenu de base?
Alors moi, je suis pour. D'ailleurs, moi, j'ai aussi réfléchi à une réforme fiscale, enfin même plus que fiscale, une réforme du système socio-fiscal qui s'inspire de la proposition de Piketty dans DSAS pour une révolution fiscale. Donc moi, je vais un peu plus loin que ce qu'il propose. Et justement, vu que ce qui manquait dans la proposition, c'était le barème de l'impôt, et je m'estimais bien incapable, et puis surtout illégitime, de décider moi-même le barème. Et justement, j'ai imaginé une façon démocratique de choisir ce barème qui inclut le processus que je viens de vous décrire. Donc moi, je suis tout à fait pour le revenu de base, et je pense que si on me demandait de choisir le montant, je dirais 600 euros par mois, parce que c'est ce que j'ai calculé être ce dont on a besoin pour vivre vraiment. Alors 600 euros par mois, sachant que moi j'inclus les APL, enfin je supprime les APL mais je les inclus dans le revenu de base, quoi. Et donc ça dépendrait de la zone d'habitation, ça serait un peu plus à Paris, ça serait un peu moins dans la Creuse, quoi. Mais parce que moi, c'est d'après mes calculs, 600 euros par mois, c'est ce dont on a besoin pour vivre vraiment modestement, manger des pâtes tous les jours, peut-être une bière par semaine. Après, pour moi, 600 euros par mois, c'est peut-être pas assez, mais je serais pour 600 euros par mois dans un premier temps, sachant que déjà, ça serait un changement radical. Alors pas si radical que ça, parce qu'avec le RSA, on donne 500 euros par mois aux gens pour vu qu'ils veuillent bien faire semblant de chercher un travail. Je dis faire semblant parce que le RSA, c'est à condition qu'on soit en recherche d'emploi, mais je sais pas comment ils vérifient ça. Mais bon, il y a 1 million ou 2 millions de personnes qui réclament pas le RSA alors qu'ils y ont droit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas très loin d'un système où les gens ont en pratique un revenu de base. C'est juste que symboliquement, enfin philosophiquement, on n'y est pas. Et donc moi, je dirais 600 euros par mois pour commencer, pour voir comment ça marche, quitte à 10 ans plus tard l'augmenter si les gens veulent, quoi.
Alors, si je réagis par rapport à trois points. Dernier point, le fait que le montant augmente avec le temps, c'est évident. Oui. On voit bien qu'avec les progrès de la productivité de l'entreprise et je dirais, l'automatisation et tout ça, une fois qu'on aura compris qu'il ne sert à rien de s'obstiner à ce que tout le monde ait un travail salarié, ce qui est quelque chose d'un peu aberrant, du coup, on ne constatera plus l'étendue par rapport à ça. Et donc, dès qu'on aura un revenu de base à la population, les gens seront plus détendus et donc chercheront moins à absolument trouver un travail salarié, sinon. Et donc, du coup, effectivement, on va automatiser plus, on va être plus à l'aise, et donc ça permettra plus facilement de dégager des ressources, et les gens, naturellement, font évoluer l'automatisation. Et donc, on augmentera le revenu de base très mécaniquement. Première chose. Deuxième chose, par rapport au montant lui-même, qu'on parlait de 600 euros, 600 euros pour un couple, ça fait 1200 euros. Mmh. 1200 euros, c'est supérieur à ce qu'un couple reçoit aujourd'hui avec un SMIC.
Oui.
Donc là, on est sur quelque chose qui dit, un couple aura plutôt intérêt à ne faire rien faire que de faire un SMIC d'aujourd'hui.
Ah non, parce que le revenu de base s'ajoutera au SMIC.
Ça s'additionne, bien sûr. Mais par rapport à un SMICard d'aujourd'hui, un couple avec un SMIC d'aujourd'hui, effectivement, c'est un gain financier. Donc c'est quand même une rupture qui est forte. Il faudra conscience de ça.
Oui.
Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est désincitatif par rapport au travail assez fortement. Troisième observation, c'est que par rapport au logement, pour moi, il y a quelque chose qui est très gênant, c'est de dire que quelqu'un qui hérite d'une maison, donc qui hérite d'un appartement, qui hérite d'une solution de logement, donc qui n'a rien à faire, qui est logé, quoi ça faire, aurait le même montant que quelqu'un qui, lui, doit se débrouiller pour se loger, et parfois c'est super compliqué.
Ah oui, mais alors moi
quand c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal à dire.
Et moi, quand je dis que je m'inspire de la réforme de Piketty dans DSS, c'est que dans leur réforme, ils incluent un loyer fictif. Donc c'est-à-dire qu'on paierait plus d'impôts si on est propriétaire non accédant. Donc.
Oui, c'est vrai. C'est une option. C'est une option, c'est-à-dire que vous reprenez d'une main ce que vous donnez de l'autre.
Voilà.
Donc le loyer serait plus fictif, mais serait réel. Donc un propriétaire serait prélevé d'un loyer qu'on calcule, même s'il est chez lui. Et ouais. Donc du coup, vous déduisez ça des 600 euros.
Non, c'est plutôt qu'on lui impute un loyer fictif comme revenu et que du coup, ça fait augmenter ses impôts. Bon, mais c'est...
Quelque chose à construction, ça revient un petit peu au même.
Ouais, bah.
C'est qu'on lui prélève quelque chose du fait que.
Voilà. Enfin, dans le sens où il est quand même gagnant d'être propriétaire dans l'excédence. On lui. C'est quand même mieux d'être propriétaire dans l'excédence que locataire dans ce cas-là, quoi.
Oui, sans doute. Mais bon, voilà. Enfin, voilà. En tout cas, c'est question du logement. Finalement, l'articulation n'est pas simple. N'est pas simple.
D'accord. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Ainsi s'achève notre émission en présence de Marc de Basquiat. Alors, je passe tout de suite au traditionnel triptyque de fin. Donc, le fait économique dont je vais parler aujourd'hui, c'est le fait qu'en France, on peut, quand on est un couple, transmettre 600 000 euros à chacun de ses enfants en 30 ans sans payer un centime d'impôt. Sachant que la moitié des adultes français ont un patrimoine inférieur à 10 000 euros. La référence que je vais donner, c'est le site revenudebase.info, tout attaché, qui présente beaucoup de documents, de vidéos, d'explications sur le revenu de base, la fiscalité en France, etc. Enfin, la citation que je vais donner est tirée de La richesse des nations d'Adam Smith, donc je vous l'ai dit en français. Tout pour nous et rien pour les autres, voilà la vile maxime qui paraît avoir été dans tous les âges celle des maîtres de l'espèce humaine.